terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Bonjour pour les vrais. Merci d'être avec nous, directeur général du Centre La Salienne à Saint-Michel, mais surtout je reçois aussi le CEO de l'année 2023 dans la catégorie économie sociale, donc c'est coopérative ou OSBL. D'abord bonjour.
Bonjour.
Donc le journal Les Affaires, effectivement, a de coutume, appelle un jury, puis ils élisent les CEO à la fin de l'année. Et là, pour cette année, pour la première fois, ils ont créé une nouvelle catégorie qui est la catégorie économie sociale. Et dans cette catégorie, donc, il y a tout ce qui est coopérative, OSBL. Et il s'avère que tu es le premier récipiendaire de ce prix. Au moment où on t'annonce que c'est toi, quelle est ta réaction?
Ah, c'est drôle, j'étais pas au pays. En fait, j'avais coupé tous mes téléphones, donc... C'était très difficile de me rejoindre. Comme l'annoncé, je pensais que c'était une blague pour de un, parce que ma première réaction, c'est que les affaires ne remettent pas de prix aux organismes communautaires. Mmh. Et de deux, il fallait déposer une candidature. Les deux choses que je n'avais pas faites. Donc, j'ai cru à la blague et j'ai dit d'accord, quand je vais revenir, on va vérifier. Et quand je suis revenu et j'étais voir dans mes courriels, j'ai vu que c'était vrai. Mmh. Et j'ai eu une double surprise sur le fait que mon équipe avait déposé ma candidature et que les affaires reconnaissaient l'importance des organismes communautaires dans le tissu social et économique du Québec. Donc pour moi, c'est une double récompense. Et je pense que juste le fait que les affaires reconnaissent que les organismes communautaires font partie du tissu économique, c'est la première plus grande victoire. En fait, c'est la première victoire et la plus grande.
Pourquoi une double victoire?
Double victoire parce que c'est reconnu par le journal des affaires, okay. Prestigieux journal des affaires, que les organismes communautaires ont fait partie de l'économie du Québec. Et je sais que ça fait longtemps qu'ils poussent pour ça. C'est de voir comment ils allaient le faire. Donc, chapeau à la rédactrice en chef, Marine
Thomas.
Thomas, exactement, mm-hmm. pour avoir fait ce pas-là. Et la double victoire, c'est pour toute mon équipe, tous les gens qui travaillent au quotidien pour aider les jeunes dans Saint-Michel. Et j'ai envie de dire pour tous les organismes communautaires qui, dans la situation qu'on connaît, la situation économique, qui font des pieds et des mains avec beaucoup moins et ils en font beaucoup plus et les enjeux sont beaucoup plus grands. Mmh. Donc, c'est dans ce sens.
Ouais. Quand j'ai eu la nouvelle, j'ai dit, voilà encore un nouveau prétexte pour tenter de t'avoir un peu face à moi, question de discuter. Donc, j'ai après parlé à deux, trois personnes qui ont été unanimes sur une chose, n'étaient pas du tout surprises par ce qui t'arrivait. Et quand je suis allé vérifier, j'ai dit, oui, ça, je comprends. Ce qui fait que je vais juste citer quelques petites... on va juste dire quelques petites affaires, juste pour donner un peu un aperçu. Je vais aller très loin dans le temps. D'abord, tu es un gars je vais me permettre cette familiarité, un gars du 67. Depuis quelques jours là maintenant, j'ai appris qu'on dit 67 pour parler de Saint-Michel, où tu es né, où tu as grandi. Mais très vite, très très vite, Paul Evra, tu as plongé dans l'action. Parce que en 2004, tu gagnes le concours jeunesse de l'art oratoire. Tu es encore à l'école secondaire Joseph-François Perrault, une école fréquentée quand même par beaucoup de gens que je rencontre depuis un moment. En 2011, tu es élu jeune leader socialement engagé et coup de cœur du public. À ce moment-là, tu es à la Maison d'Haïti. Et ça, c'est jeune leader par la jeune chambre de commerce haïtienne. En 2013, tu obtiens la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. En 2020, tu es lauréat du mois de l'histoire des Noirs. En 2023, tu es le lauréat du concours Estime de la Jeune Chambre de Commerce de l'Est dans la catégorie Jeune Leader. En mars 2003, il y a cette médaille de l'Assemblée nationale pour souligner ton implication au cours des 15 dernières années. Quand je dis ça, je dois rajouter une chose. Dès l'âge de 20 ans, commissaire scolaire, tu as tâté un peu de la politique, tu as été attaché politique, Maison d'Haïti, Fondation Didier Drogba, et puis aujourd'hui le Centre La Salienne. Donc quand je dis tout ça, ça pose un peu le personnage pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, je me vois obligé de te poser une question qu'on t'a déjà sûrement posée. Quand à 20 ans déjà on commence par être commissaire scolaire, ça vient d'où? Quand en 2004 on se décide à aller faire le concours de l'art oratoire, ça vient d'où tout ça?
Le concours d'oratoire, j'ai envie de dire que c'est un peu par ça que ça a commencé. C'était la première fois que quelqu'un d'une école publique remportait, et c'était la première fois que quelqu'un d'une école publique se rendait en finale, et c'était la première fois qu'un noir remportait ce concours.
Triple première fois.
Ouais. Et moi, c'était l'envie de dire, de très, très, très jeune, que d'où je viens ne va pas définir ce que je suis. Et de là, de savoir que c'était impossible, ben moi, ça m'a dit, ben c'est le temps de le faire. Et souvent, mon parcours, quand je le regarde avec les années, j'ai toujours eu la possibilité d'être la première fois. Et ça vient de cette idée où je sais que ma mère a quitté Haïti pour permettre que ses enfants aient une éducation. Pour elle, tout passait par l'éducation. Et pour la remercier pour ça, j'ai toujours voulu montrer qu'elle avait fait ce sacrifice-là pas pour rien, en fait. Mm-hmm. Donc, je me suis toujours concentré à la faire plaisir et on n'était pas très fortunés chez moi. Et la chose qu'on pouvait faire, c'était donner du temps. C'est ce que ma mère disait, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, comme commissaire scolaire, c'était de donner du temps. Au niveau de la Maison d'Haïti, les organisations communautaires, c'était de donner du temps. Au niveau de toutes mes implications autres, c'était juste donner du temps. C'est ce que j'avais. C'était du temps. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais du temps. J'étais porte-parole pour Centraide aussi à l'époque. Ça me permettait de donner du temps. Donc, c'est de là, en fait, donner du temps et montrer à ma mère que les sacrifices qu'elle a faits, c'était pas en vain et que l'éducation qu'elle voulait pour ses enfants, ben que ça servit.
Je n'ose pas imaginer à quel point elle est fière. Mais quand tu vas faire des études en relations internationales, par exemple, parce que tu es diplômé en relations internationales de l'université de Sherbrooke, c'est pas pour donner. Tu aspires à quoi? Plus jeune, tu aspires à quoi, en fait, pour les vrais?
Plus jeune, je rêvais de devenir premier ministre. Et
Ah oui, premier ministre du Québec ou premier du Canada.
Je ne savais pas à l'époque, je voulais juste devenir premier ministre. Mais je réalise aujourd'hui que ce que je voulais faire, c'était changer les inégalités. Et aujourd'hui, dans la position que je suis avec l'équipe que j'ai une belle influence pour pouvoir apporter de l'eau au moulin. Donc, je réalise que mon but, c'était devenir premier ministre pour changer les inégalités. Mais en ce moment, je préfère changer les inégalités que de faire de la politique. Froidement. Très, très jeune, j'aspirais à devenir la meilleure version de moi-même, en fait. Et ma mère était plus ou moins contente par relation internationale en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire après? » Mais elle était contente que je continue au niveau de l'éducation. J'espérais juste à comprendre, parce que la politique et les relations internationales, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs et continuer à s'améliorer. Donc, ce contexte historique que j'ai pu apprendre grâce à l'Université de Sherbrooke m'a permis de prendre des décisions, des fois juste répéter des choses qui ont fonctionné, des fois modifier avec le contexte des choses qui ont fonctionné. Donc, c'est ce que je voulais, en fait, continuer à mettre des outils dans mon boîte à outils pour pouvoir aider contre les fractures que nous avons dans le quartier Saint-Michel ou à Montréal. Mmh.
Tu disais tantôt que tu as fait un certain nombre de choses justement pour montrer à ta mère que les sacrifices qu'elle a faits n'étaient pas des sacrifices vains. Mais pour la volonté de faire ces choses-là, est-ce que c'est elle qui t'a inculqué ça? Ou c'est venu naturellement? À Saint-Michel, est-ce qu'il y avait un modèle? D'où c'est venu naturellement?
Mais les gens ne savent pas, mais la vraie chose que je voulais faire dans la vie, c'était très, très, très jeune, c'est devenir pasteur. Moi, je courais à l'église. J'étais le premier, je devais m'asseoir en avant parce que j'étais impressionné par le fait que quelqu'un pouvait parler de l'église et que tout le monde l'écoutait, que tout le monde était passionné et qui voulait aller à la guerre avec certains passeports, avec certains... pasteur. Donc, moi, c'était mon rêve. Je voulais devenir pasteur pour pouvoir amener les troupes, amener les personnes à vouloir à changer les inégalités. Donc...
Je comprends l'art oratoire après, en 2004, qu'en fait, parler aux gens.
Je me rappelle quand j'ai remporté ce concours, le membre du jury a dit « J'ai l'impression que j'assistais à une messe. » Et tu prêchais pour nous. C'était quoi la réussite? Et c'était une fleur pour moi parce que c'était ça mon rêve, de devenir pasteur et dire aux gens que c'est possible. Et donc, ma mère m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Elle m'a toujours dit, fais ce que tu crois qui est le mieux et dans les paroles de l'Évangile aussi également, d'avoir toujours ces valeurs chrétiennes ou adventistes dans mon cas, dans la région que j'ai vécu. Donc, c'est ce qu'elle m'a inspiré. Elle ne m'a pas inspiré à faire autre chose et elle m'a toujours donné de la confiance en disant, fais ce qui est bon pour toi, en fait.
Tu as fait, et je vais le dire, je vais même utiliser le verbe parce que ça n'a pas été long, tu as bifurqué un peu dans la politique où tu as été attaché politique. Tu en gardes quel souvenir? Un bon, un mauvais, un mitigé?
Oh, excellente question. J'en garde un bon souvenir de, par les expériences et de la personne que j'ai eu la chance de côtoyer au quotidien, Mme Samson, la mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension, mm-hmm. qui est aujourd'hui présidente de mon conseil d'administration. Mm-hmm. Donc, c'est encore ma boss. J'en garde un bon souvenir par rapport à ça. J'en garde un souvenir mitigé par rapport à la lourdeur administrative. J'ai envie de dire que faudrait un jour se pencher sur tous les ajouts de procédures qui font que on ne peut pas agir rapidement quand les besoins sont immédiats. On l'a pu le voir pendant la pandémie où la société civile a rapidement eu besoin des organismes communautaires parce que eux, ils étaient capables de répondre rapidement aux enjeux qui émergeaient immédiatement, en fait. Et je crois qu'il y a vraiment une réflexion globale à faire sur toutes les procédures qui ont été mises dans des contextes donnés, pour des raisons données, qu'il faut revoir aussi. Et beaucoup de procédures ont été faites alors qu'on n'avait pas cette diversité. Je parlais pour Montréal. À Montréal, on n'avait pas cette pluralité non plus. Donc, ça alourdit les processus. Sur ce point, je regarde un souvenir mitigé. Par contre, j'ai rencontré uniquement des personnes qui voulaient vraiment changer les choses. On n'avait pas peut-être la même façon de le faire, la même route qu'on voulait emprunter, mais les personnes qui décident de faire de la politique, j'ai un immense respect pour eux, parce que c'est tous des gens qui veulent que, améliorer le sort des citoyens de la cité.
Et ça n'allait pas avec, je dirais quoi, ton caractère quoi, impatient?
Oui, j'aime quand ça bouge, mm-hmm. j'aime quand on réagit, il y a une problématique, on trouve une solution, puis on agit. Mon équipe va être au courant. Quand on a la solution, on regarde le contexte rapidement, on y va en mode agile. C'est-à-dire que on n'a pas de problème à se remettre en question, puis c'est pas parce que j'ai trouvé une solution ou que nous avons trouvé une solution aujourd'hui que demain elle est bonne. Donc rapidement, toujours se remettre en question. Puis ça, mon équipe, on est au courant. Puis je pense que c'est la force aussi au niveau du centre, c'est qu'on adhère à ça. Mmh. C'est qu'on est rapidement capable de changer, et ça va pas avec mon caractère au niveau politique en ce moment.
Mmh. Donc, je l'ai dit, il y a donc par exemple, il y a eu la maison d'Haïti, tu as été en politique, puis il y a la fondation Didier Drogba, un an, trois mois, un an, six mois à peu près, belle organisation, très médiatique et tout. Pour les vrais, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la fondation?
De mon côté?
Je sais pas, du tien ou de tous les côtés.
Ah non, pour moi, la fondation, c'était une expérience incroyable.
Okay.
J'ai voulu retourner à Saint-Michel. Puis c'est drôle parce que Didier le savait. Mmh. Quand Didier est venu à Montréal, sa première sortie publique hors Impact de Montréal, c'était à la TOU pour un événement que j'organisais pour ramasser des fonds pour aller aider en Haïti. Didier est devenu rapidement un très, très bon ami. Et à chaque fois, je parlais de Saint-Michel. Et je me souviens, un moment donné, pour sa fondation, on avait un événement à Monaco. Et j'avais fait une conférence auprès des gens de Saint-Michel juste avant d'aller à l'événement à Monaco. Et il y a un jeune de Saint-Michel qui m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qui est pas possible? Mais que toi, tu viennes de Saint-Michel et que tu côtoies toutes ces personnes. Grâce à ce jeune, je me suis fait un t-shirt où c'était marqué, je viens de Saint-Michel. Mm-hmm. Je suis à un événement à Monaco. Nous sommes dans un resto avec Didier, beaucoup de célébrités, et je reçois un verre. Je prends le verre, puis Didier, tout le monde se demande pourquoi je reçois un verre. Puis le serveur me dit, il y a quelqu'un au loin qui te sert un verre. Fait que je le remercie, je vais le voir. Je dis, merci pour le verre, mais pourquoi? Et il dit, parce que moi aussi, je viens de Saint-Michel.
Okay.
Et moi, j'ai fait comme, comment c'est possible qu'à Monaco, tu viennes aussi de Saint-Michel? Mais lui, il venait de Mont-Saint-Michel en France.
OK. Okay.
On n'est pas dans le même Saint-Michel.
On n'est pas dans le même Saint-Michel du tout. Ouais.
Par contre, j'en lui ai parlé, puis c'était drôle. Mais comme quoi, moi, la fierté de dire que je venais de Saint-Michel, je l'ai gardé partout. Donc, Didier savait à quel point j'étais attaché à Saint-Michel. Et Didier m'a demandé d'aller à sa fondation pour restructurer. Parce que Didier a parti à sa fondation quand il était très, très jeune. Mm-hmm. Et elle est devenue beaucoup plus grosse qu'il croyait par rapport à la structure qu'elle avait mise en place. Il y a eu des problématiques dans sa fondation qu'on a entendu parler dans les médias. Et c'est à ce moment-là que Didier m'a dit, j'ai besoin de toi pour restructurer
ça. Mm-hmm.
Ce que j'ai fait, et quand mon mandat s'est terminé, selon moi, je suis retourné dans Saint-Michel mm-hmm. comme directeur du centre de la Saline. Donc, l'expérience a très, très bien marché. D'ailleurs, Didier faisait une publication il y a quelques jours pour me féliciter pour le chemin accompli depuis la fondation.
Depuis la fondation. Ben, ça me donne l'occasion, avant qu'on aille à la pause, Paul Évra, Saint-Michel, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Michel?
C'est une richesse incroyable, en fait.
Pourquoi toute ta vie tourne autour de Saint-Michel? Toutes tes actions tournent autour de Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Michel?
Je vous dirais, il y a une richesse incroyable, c'est que c'est l'ONU. On parle plus de 100 langues à Saint-Michel, population très, très jeune, donc beaucoup de potentiel, une diversité d'opinions, une pluralité de religions. J'ai envie de dire que c'est une micro-société qui représente la micro-société mondiale, en fait. Et si Saint-Michel fonctionne, alors le monde peut fonctionner. Je me dis tout le temps que j'ai la chance de travailler dans ce laboratoire où on a des gens avec leur parcours, leur chemin migratoire, des Québécois, plusieurs personnes qui veulent le mieux pour leur vie. Donc, on est dans un laboratoire parfait pour dire que si on doit réussir Saint-Michel, si on veut réussir la société, et je parle mondial en fait. Mm-hmm.
Et je vais la poser encore différemment.
Ah oui,
est-ce que... Oui, évidemment, j'ai plus ou moins la réponse, mais est-ce que tu pourrais travailler ailleurs?
Je l'ai faite, c'est plus ou moins marqué dans mon parcours. La Fondation Drogba est en Côte d'Ivoire.
Oui, elle est en Côte d'Ivoire.
J'ai travaillé aussi pour CIMAPLUS.
Ouais.
CIMAPLUS, c'est une compagnie d'ingénieurs. C'était au centre-ville de Montréal. J'ai travaillé pour McConnell Foundation, aussi au centre-ville de Montréal. J'ai travaillé avec Québec en forme, qui était à Trois-Rivières à l'époque. Donc, j'ai travaillé ailleurs. Je n'ai jamais resté très longtemps ailleurs. Mais quand je dis vraiment travailler ailleurs,
c'est-à-dire que le travail de construction, ce que tu bâtis comme société, est-ce que tu peux aller le faire ailleurs ou pour toi, il faut d'abord que ça parte de Saint-Michel?
Tu sais, quand j'ai décidé de revenir à Saint-Michel, c'est que j'avais l'impression que je n'avais pas terminé ce que j'avais commencé. Puis autant pour moi, en tant que personne, pour me développer, et autant pour les gens du quartier Saint-Michel. Donc, moi, mon but, en fait, c'est qu'on n'ait plus besoin de moi dans le quartier Saint-Michel, puis que je puisse faire autre chose. Donc, je rêve d'aller travailler ailleurs, mais je ne le ferai pas juste pour le fait de travailler ailleurs, en fait. Mm-hmm. Est-ce que ça répond mieux à la question?
D'une certaine manière, je sens que bon, c'est pas demain que tu vas quitter Saint-Michel. On est d'accord là-dessus.
Non, ça m'étonnerait.
Voilà, demain. C'est ça. On est d'accord là-dessus. Alors, maintenant, si c'est vrai, ça ne fait que 5 ans, en fait, que tu es à la tête du centre lassalien. Mais ton nom est indissociable aujourd'hui de ce centre-là, tellement en 5 ans, il y a des choses que tu as faites, qui sont venues changer beaucoup de choses. Ça, je voudrais qu'on en parle peut-être juste après la pause.
Néo Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant.
Voilà, je suis toujours en compagnie de Paul Evra, le directeur général du centre lassalien, mais qui a en plus de ça aujourd'hui une nouvelle casquette, voilà, qui est le CEO de l'année au Québec dans la catégorie économie sociale, élu par le jury du journal Les Affaires. Donc, je veux qu'on parle justement de ce centre lassalien, de la manière dont tu l'administres, de la manière dont tu le gères, parce que voilà, ça conduit à ce que aujourd'hui le plus grand magazine économique, financier, comme je dis moi, francophone, te reconnaisse aujourd'hui comme CEO de l'année dans cette catégorie entreprise sociale. 5 ans, tu rentres au centre lassalien. D'abord, comment tu postules?
Je postule parce qu'il y a un coordonnateur qui était là à l'époque qui m'a envoyé le poste pendant que j'étais à la Fondation Drogba. Puis je lui ai dit « Ah non, je travaille pour la Fondation Drogba, ça va bien et tout. » Et je vais toujours me souvenir. C'était 3 mois, je crois, de mémoire. On avait 3 mois pour postuler. La dernière journée où il fallait postuler, il me rappelle, il m'a dit « Est-ce que tu as postulé ?» Je réponds « Non, je suis encore à la Fondation. » Il me dit « Postule et on verra par la suite. Mm-hmm. » Donc, j'ai postulé à la dernière journée où je pouvais postuler en ne voulant pas aller travailler nécessairement pour le centre lassalien. Et le processus a été long. Et parallèlement à ça, moi, avec la Fondation Drogba, j'ai continué à avancer, à structurer, à mettre en place des procédures. Et je sentais que l'appel était venu pour moi de quitter. Et j'ai reçu l'appel à ce moment-là pour l'entrevue. Mmh.
Quand tu rentres donc au centre de lassalien, tu dis voilà, tu vas apporter ton expérience, puis on l'a compris depuis le début de notre entretien, ton idée c'est aussi de redonner quelque part à ton quartier, au quartier Saint-Michel qui t'a vu naître. La première, je te dirais quoi, la première action quand tu rentres à Saint-Michel, tu regardes ça, le centre de la Salienne, tu dis qu'est-ce que tu veux faire de ce centre?
Je me rappelle, j'ai fait le tour, j'ai attendu une semaine pour regarder vraiment toutes les activités, quelques semaines en fait, et j'ai souri. J'ai dit quoi? J'ai tout ça comme terrain de jeu? Et je riais, je me rappelle, j'ai appelé des amis, j'ai dit ben, j'ai un terrain de jeu incroyable pour faire une différence dans le quartier. Et une de mes premières actions, ça a été de mettre une boîte de rêve. Je dis, moi, j'ai pas de bonnes idées, mais les jeunes doivent avoir des meilleures idées que moi. Donc, j'ai mis une boîte de rêve, puis j'ai demandé aux jeunes de me dire, c'est quoi leur rêve pour le quartier, pour le centre lassalien, puis et pour eux, des rêves collectifs. Donc, c'est de ça que je me suis inspiré rapidement et que j'ai amené l'équipe à s'inspirer. J'ai leur ai demandé de rêver. Ce qu'on fait pas habituellement dans du communautaire. Puis à chaque fois, on me disait, mais est-ce qu'on a les moyens? Je dis, ça, c'est notre sujet. Mm-hmm. Si, je peux pas savoir si j'ai les moyens, si je sais même pas c'est quoi ton rêve. Donc, rapidement, le discours a changé. Et la façon de faire, c'était pas regarder le budget qu'on avait, on fait une activité. C'était, c'est quoi le rêve? On va trouver les ressources par la suite. Donc, ce sont les premières actions que j'ai faites, ce qui a amené à avoir autant de programmes qui répondent directement aux besoins de la population, parce que les sujets, les projets proviennent de la population, puis dans notre cas, les jeunes beaucoup.
J'ai lu en faisant les recherches pour cet entretien, en 5 ans, le budget du centre lassalien est passé de 300 000 dollars, je dis bien 300 000 dollars, à 3 millions de dollars. Tu as augmenté le personnel de 20 à 45 personnes. Je suis sûr et certain qu'il y a des dirigeants d'OBNL là qui nous écoutent et qui doivent se demander, mais c'est quoi ton... Comment tu fais? C'est quoi le secret?
C'est une excellente question. J'ai envie de dire que c'est les gens qui s'accrochent à notre mission. Tu sais, à partir du moment que tu crées un rêve, puis que tu as expliqué à n'importe qui, voici le rêve que les jeunes nous ont dit, comment vous pouvez nous aider? Les gens au Québec sont généreux. Les gens au Québec veulent participer. Quand ils voient qu'il y a quelque chose de concret, ils veulent participer. Rapidement, on a été capable d'associer des fondations, des organismes aux rêves que les jeunes ils avaient. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a développé notre réseau. Et j'ai envie de dire qu'une des problématiques que je dis souvent pour nos quartiers, c'est qu'on n'a pas de réseau. Donc, rapidement, j'ai voulu créer un réseau autour du centre lassalien, parce que ce réseau qui est autour du centre lassalien, c'est un réseau pour nos jeunes aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on a développé le centre. On a créé un tissu social, mais économique, autour de ce réseau-là, et d'autres personnes qui parlent à d'autres personnes, qui parlent à d'autres personnes. Et au niveau des communications, on a été très chanceux dernièrement où les gens parlaient du centre lassalien, donc ça continue à développer ce réseau-là. C'est un prix comme le prix que nous avons reçu, le personnel et moi, du genre des affaires, va encore permettre de développer le réseau pour dire que nous, on veut travailler pour les jeunes. Si vous voulez vous associer à nous, la porte est ouverte. Mmh.
Est-ce qu'il y a eu un travail à faire? Je reviens au début du moins tes premières années. Est-ce qu'il y a eu un travail à faire sur l'image, par exemple, que pouvait avoir le centre et puis ces jeunes?
Tout à fait. On a dû refaire l'image au complet. Tant image de marque, mais aussi notre réflexion, notre façon de faire aussi. On s'est reposé des questions et on se rappellera, moi je suis rentré en mars 2018, j'ai vécu un an jusqu'à mars 2019 et ensuite l'année d'après, je suis tombé dans la pandémie. Je dis souvent que je suis meilleur directeur pendant la pandémie qu'avant la pandémie parce que j'ai plus d'expérience. Mais pendant la pandémie, nous, on n'a pas arrêté nos activités, mais on a réfléchi. On a fait une restructuration complètement, un plan stratégique dès les premiers mois de la pandémie. On a redéfini tous nos projets, toutes nos activités pour être capable d'être beaucoup plus agile dans les problèmes qui étaient pendant la pandémie et qui allaient survenir après la pandémie. Parce que rapidement, on a fait des réflexions en disant ça va changer après la pandémie, il faut être capable de réagir rapidement. Donc oui, il y a une réflexion, il y a une construction et des procédures ont été mises en place pour pouvoir mettre en place des solutions rapides. Et moi, avant le centre lassalien, j'ai travaillé à la Fondation Drogba, mais j'ai travaillé chez CIMA+, une compagnie d'ingénieurs. J'ai voulu mettre en place les mêmes procédures que chez CIMA+. Donc, je disais tout le temps, moi, ce que je fais est communautaire. La façon de le faire n'est pas communautaire. Donc, on a travaillé à développer les mêmes procédures qu'une grosse firme d'ingénieurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de rapidement répondre à des besoins et répondre à des redditions de comptes et le personnel a augmenté. Et je me rappelle, de 2 ans après la pandémie, nous sommes montés à 100 employés.
Donc, c'est peut-être ça le secret, alors, c'est d'appliquer un management privé à dans le communautaire, c'est ça?
Je crois que ce que c'est déjà fait, d'arrêter de compte qu'on demande aux organismes communautaires, elle a complètement changé. On n'est plus dans les années 60 où les communautaires remplaçaient l'Église, puis qu'on est juste parce qu'on aime les enfants, ou on sait coudre, ou on a jeté à l'école, donc on accompagne les jeunes. On est vraiment dans des personnes qui ont étudié, qui ont travaillé dans le domaine, qui ont du cœur, oui, mais qui ont aussi une vocation et, plus loin qu'une vocation, une compétence. Donc, aujourd'hui, on utilise les organismes communautaires comme on utilisait les organismes, comme on utilisait l'Église à l'époque. Donc, on ne paie pas assez, puis on se dit de toute façon, c'est une vocation. Ben, à l'époque, on disait vocation, c'est parce que les frères et les sœurs, c'est eux qui étaient là. Donc, nous sommes déjà une compagnie privée. Tous les organismes que je connais travaillent comme des organismes privés. Donc, en ce moment, il faut juste aller donner l'argent pour le faire. Nous, on a eu la possibilité d'avoir beaucoup de personnes qui ont décidé d'avoir un deuxième emploi et travailler au centre la Sané. Ce qui nous a permis de mettre une structure en place très, très professionnelle. Les gens qui m'entourent au niveau du centre, la majorité pourrait travailler dans le privé. Mm-hmm. C'est pas dire la totalité.
Ils ont les compétences et ils sont outillés pour ça. Quoi.
Juste dans l'organisation, on a 3 personnes qui ont un billet en gestion d'entreprise.
Okay.
J'ai un avocat, un PMP, j'ai 3 enseignants. J'ai des personnes hyper compétentes dans mon organisation. Criminologue, mais c'est des personnes qui disent, moi je vais faire du communautaire, fait que je reste au centre lassalien. Cependant, si on voudrait vraiment regarder le centre lassalien comme il se doit, comme beaucoup d'organismes, c'est une compagnie privée.
Tout à fait. Je veux qu'on termine avec quelque chose que tu as dit au début de l'entretien, quand j'ai parlé justement de ce prix que tu viens de recevoir, et tu disais que quelque part tu souhaiterais que le gouvernement, justement, reconnaisse ou donne plus de moyens, je paraphrase un peu ce que tu as dit, mais donne plus de moyens aux organismes communautaires. Quoi? Est-ce que c'est leur donner un statut privé? Est-ce que c'est... Quel est ton souhait, en fait?
Parce que quand on parle organisme communautaire, souvent, on ne réfléchit pas comme on parle d'une compagnie privée, dans la façon qu'on va leur demander de faire des choses, dans la façon qu'on va leur traiter, dans les subventions qu'on va leur donner. On donne toujours souvent des salaires beaucoup moins élevés quand on dit que c'est du communautaire. Donc, on prend un même poste. Si on le met dans le privé ou dans le communautaire, le gouvernement, dans la subvention, va donner moins quand c'est dans le privé. Dans le communautaire, excusez-moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit plus les parents pauvres, en fait. Que le communautaire soit traité comme les plus grosses compagnies privées. La façon qu'on traite les compagnies privées, le communautaire mérite d'être traité de la même façon. Puis on l'a vu. Puis tu sais, en ce moment, le communautaire faisait aussi partie des anges gardiens pendant la pandémie. Mm-hmm. Mais maintenant qu'on a besoin de demander des subventions, ben on n'est plus des anges gardiens. Mais on va attendre que les enseignants et les infirmiers et infirmières se soient réglés. Et par la suite, il va falloir vraiment se pencher sur le statut des organisations communautaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques beaucoup plus élevées, parce que on met en situation précaire des personnes qui aident des gens qui sont en situation précaire. Ça fait pas de sens. Aucune société va trouver ça logique que les employés qui aident des gens en situation précaire soient eux-mêmes mis en situation précaire par leur employeur. Donc
vous comprenez pourquoi Paul Evra a été choisi par un double jury. Parce qu'il y a d'abord le jury du journal Les Affaires, puis ensuite un jury d'hommes et de femmes du milieu des affaires québécois. Pourquoi il a été choisi comme CEO de l'année dans la catégorie économie sociale? Parce que ben, ça, quand on entend ce discours-là, on a tous envie de te suivre et de dire « Ok, allons-y, dès que les infirmières terminent, on t'accompagne pour aller changer la donne. » Paul Evra, ça a été un vrai plaisir vraiment de t'avoir. Moi, je te dis en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de au Québec, on te dit vraiment bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce que tu apportes à Saint-Michel, parce que de ce que j'entends aussi, l'impact n'est plus seulement à l'intérieur du centre, c'est-à-dire il n'est plus seulement au sein de ceux qui fréquentent le centre, mais on commence à le voir même à l'extérieur du centre, c'est-à-dire que dans le quartier Saint-Michel. Bravo et félicitations pour ce que tu fais. On est en 2023. Pour les voir. 2029, tu es où? 2030, tu es où? Finissons avec ça.
C'est une excellente question. J'ai envie de répondre. J'espère que la société va voir régler toutes les problématiques qu'on a par rapport à l'éducation, la santé mentale, toutes les problématiques où ce que les jeunes ne mangent pas 3 repas par jour. Puis si on répond qu'on a réglé ces problématiques-là, Bah, je vais être sur, en train de prendre ma retraite sur une île quelconque, pourquoi pas en Haïti.
Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ça a été un plaisir de t'avoir. Mon nom est Cyril Ekwala.